Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition consacrée à la question migratoire en Europe. Si l'immigration n'a pas toujours été une question sensible en Europe, elle l'est devenue avec la crise de l'accueil des réfugiés de 2015-2016, le vote sur le Brexit et la montée de forces identitaires à l'ouest et à l'est de l'Europe, comme d'ailleurs aux États-Unis, jusqu'à apparaître comme un point principal de cristallisation. La crise migratoire, un poison lent pour l'Union, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. Serge Sure, professeur émérite à Paris 2, directeur de l'annuaire français de relations internationales et rédacteur en chef de la revue Questions internationales, dont le dernier numéro est intitulé « L'Europe face au choc des migrations ». Bonjour.
Bonjour.
Christophe Bertossi, directeur du Centre Migration et Citoyenneté de l'Institut français des relations internationales. Bonjour.
Bonjour.
Et Hervé Lebras, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Bonjour.
Bonjour.
La question des migrations a été l'un des sujets centraux de l'élection au Parlement européen ce printemps. 4 ans après la crise de 2015 qui a révélé l'impréparation totale de l'Europe à des chocs extérieurs prévisibles et souligné des problèmes d'adhésion à des valeurs supposées communes comme la solidarité. Les dirigeants européens ont laissé à quelques États tout le poids de la gestion des migrants. Il y a en Europe 2 visions des migrations qui se télescopent. L'Europe passoire d'un côté, l'Europe forteresse de l'autre. 4 ans après le pic migratoire de 2015, année où 1 million d'entrées illégales avaient été dénombrées, l'Union a-t-elle digéré la crise ? Hervé Lebras.
C'est très variable selon les pays. D'une certaine manière, des pays, par exemple, même comme l'Espagne, qui sont des pays maintenant exposés, maintenant que l'Italie s'est justement transformée en forteresse, la question des migrations n'a pas été importante dans l'élection espagnole. C'est surtout la question catalane qui a dominé. Donc, alors il est vrai que est apparu un parti pour la première fois en Espagne, Vox, qui était un parti xénophobe, anti-migratoire, mais qui est aussi un parti, on pourrait le dire, nationaliste au sens fort du terme, c'est-à-dire contre la séparation de la Catalogne. La France est un peu intermédiaire. Alors des pays sont bien sûr vigoureusement contre, avec des paradoxes énormes. Par exemple, les pays dits du bloc de Visegrad, non seulement la Hongrie, mais aussi la Pologne. Le cas de la Pologne est tout à fait paradoxal, puisque, vous le savez, la Pologne a refusé 500 réfugiés qui lui étaient attribués par Bruxelles. Et dans le même temps, les statistiques commencent à donner en Pologne à peu près 1 200 000 Ukrainiens. Alors, ils sont à titre précaire. Hein, ils ont des visas de 3 mois renouvelables. Enfin, beaucoup de migrations ont commencé sans cela. Et les Polonais les supportent parce qu'on entre dans des questions de mécanisme, parce qu'une partie des travailleurs polonais ont d'abord été en Angleterre, puis sont maintenant en Allemagne. Donc, la Pologne manque de main-d'œuvre. C'est le taux, d'ailleurs, de chômage le plus faible de l'Europe maintenant. Donc, les situations migratoires et les attitudes migratoires sont extrêmement différentes selon les pays d'Europe. Et c'est pour ça que je crois très difficile d'arriver à des solutions européennes autres que sur des points très particuliers, comme par exemple des questions de reconnaissance des résultats du droit d'asile.
Alors, attitudes européennes très différentes. Christophe Bertossi, finalement, Le fossé entre les pays de l'Est européen et de l'Ouest ne s'est pas amoindri.
Je crois pas, et je crois que si on était aujourd'hui confronté à la même situation, les Européens n'auraient pas plus les moyens qu'en 2015 d'y faire face. Et du coup, ça interroge sur la notion même de crise migratoire qu'on aurait pu connaître en 2015. Je crois que ce qui est le choc véritable à propos de l'Europe, c'est de voir qu'elle n'est incapable de se mettre d'accord sur un sujet qui fait partie, au fond, des grands enjeux mondiaux aujourd'hui et qui fait que, pourtant, il y a des effets d'échelle de décision. C'est-à-dire que les politiques nationales, aujourd'hui, en matière de migration, elles sont un petit peu démunies pour avoir véritablement une efficacité concernant la mobilité humaine internationale. Bon, et du coup, il y a une attente à ce que des régions puissent se mettre ensemble, s'intégrer dans un programme commun et cohérent pour organiser à la fois l'arrivée, le transit, le départ des migrants. C'est pas simplement le cas de l'Europe, c'est aussi le cas, on en parlera peut-être, des États-Unis dans sa relation avec le Mexique et des mobilités qui proviennent d'Amérique centrale. Donc je crois que on a une contradiction ici. Les politiques nationales sont inefficaces et elles le seront de plus en plus pour parvenir à une régulation des migrations internationales, et l'échelle de décision est probablement au niveau régional, et en même temps, la région qui, dans le monde, a été le plus en avance dans une intégration politique, c'est l'Union européenne. Or, sur ce sujet migratoire, l'Europe est tombée en panne, et elle est en panne dans la prise de décision depuis 2015.
Hervé Lebras, vous souhaitez rajouter quelque chose?
Juste un mot pour peut-être clarifier la discussion. On se met à parler de migrants, en fait, pour des réfugiés. C'est ça, là, ce qu'on a appelé la crise migratoire. Je pense que, déjà, le mot crise est compliqué, mais il faudrait dire crise des réfugiés. Je vais vous donner quelques chiffres. L'année dernière, la France a donné 253 000 titres de séjour légaux. Ça, c'est la migration régulière. Elle a eu un pic de demandes d'asile de à peu près 120 000 personnes, mais dont 80 000 étaient des premières demandes. Donc, la masse de la migration vers l'Europe, c'est quand même encore maintenant une migration régulière. Il faut bien voir cela. Et il y a eu tendance à assimiler cette migration régulière à la migration des réfugiés, qui est totalement différente.
Serge Sûr.
Oui, d'ailleurs, s'agissant des réfugiés, il faut bien distinguer entre ceux qui ont l'intention de rester durablement et puis ceux qui sont là pour une période limitée tant que la situation n'est pas éclaircie dans leur pays au sein duquel ils ont l'intention de rentrer. Moi, j'aurais peut-être dire un mot particulier du cas de la France. Dans le cas de la France, il me semble qu'on ne peut pas parler de crise ou de choc parce qu'en réalité, il y a un flux qui est continu depuis, au fond, la décolonisation. Et s'il y a eu un choc, il a été en 62, lorsque tout d'un coup, près de 800 000 pieds noirs sont rentrés qu'on n'attendait pas. Et il faut bien dire qu'ils l'ont vécu de façon difficile, mais ils ont été absorbés quand même, sans difficulté. Au fil du temps, ils se sont parfaitement intégrés, pour des raisons qu'on connaît, et qu'ensuite les flux migratoires qui se sont maintenus et qui étaient pour l'essentiel en provenance des anciens pays colonisés ont posé plus de problèmes. Mais il me semble que l'une des difficultés qu'on peut avoir en France, c'est qu'il n'y a pas de débat sur ce sujet. Il y a des perceptions, et les perceptions sont différentes de la réalité. Elles donnent le sentiment qu'il y a un afflux massif, ce qui n'est pas le cas. C'est un afflux qui s'est prolongé dans le temps et qui généralement donne lieu à une intégration paisible. La perception est différente. Et s'il y avait un débat qui soit un débat éclairé, que tous les politiques s'efforcent de refuser d'ailleurs, il me semble qu'on aurait une appréciation plus saine de la situation. Alors je parle du cas français. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur l'Europe et sur son incapacité à la fois objective et subjective à se saisir du problème.
Alors, pas de débat en France, on reste sur la France quelques instants, simplement pour évoquer ce que le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé, c'est un débat au Parlement qui serait organisé chaque année. Ça, c'est une nouveauté, mais est-ce que, Christophe Bertossi, on peut y voir une vraie nécessité? Pourquoi maintenant et...
Je pense qu'il est essentiel de mettre la question migratoire dans un débat démocratique parce que ça fait partie de la vie normale d'une démocratie que de discuter de grands sujets. Mais au nom du débat démocratique, encore faut-il ne pas dire n'importe quoi. Or, on peut constater que, et en France aussi, les Européens comme les Américains peuvent avoir tendance à avoir la raison qui s'égare dès lors qu'on commence à discuter de ce sujet, pour les raisons qui étaient invoquées. Ça impliquait énormément d'émotions et de sensibilité. Des fois, une sensibilité de l'opinion publique qu'on lui projette, parce que lorsque l'on voit le débat national qui vient d'être organisé, voir ce qu'on peut entendre comme revendication venant des Gilets jaunes, la question migratoire n'apparaît pas, elle n'est pas du tout structurante, elle n'est pas du tout thématisée, et on revient avec cette proposition quand même que l'émigration étant si importante pour les débats démocratiques, eh bien, faisons-en un point central de la discussion. Le débat du Parlement, c'est quand même quelque chose qui n'est pas nouveau, puisque c'était déjà prévu par une loi de 2007, et depuis 12 ans, le débat n'a pas été organisé. Donc on a les outils pour le faire. Je pense que si ce débat a de bonnes intentions, c'est-à-dire des intentions pédagogiques, les intentions de sortir d'un débat qui est trop souvent clivant, et d'un débat qui est trop souvent peu rigoureux sur le sujet migratoire, la démocratie y gagnera, à condition, encore une fois, qu'on ait les éléments pédagogiques de nos responsables politiques sur ces sujets-là. Je veux juste prendre un exemple, c'est-à-dire que l'une des grandes dernières étapes dans la construction, la tentative de construction d'une gouvernance mondiale des migrations, c'est le pacte de Marrakech qui a été signé en décembre 2018, décembre dernier, et vous vous souvenez de la campagne très virulente contre ce pacte qui a été qualifié de tous les noms. C'était le pacte avec le diable sur les réseaux sociaux, notamment animé par des groupuscules d'extrême droite, voire des partis d'extrême droite français et européens. Il y a quand même un gouvernement en Belgique qui est tombé sur la question du pacte mondial des migrations. Et alors même qu'il suffisait de lire ce pacte pour se rendre compte que ce qu'on en disait n'avait rien à voir. C'est un pacte pour organiser une immigration régulière, contrôlée et légale. Du coup, voilà, la démocratie doit s'emparer du sujet migratoire, elle ne doit pas le faire à n'importe quel coût.
Serge Sûr.
Oui, sur ce pacte de Marrakech, je voudrais peut-être dire un mot. Il est un parfait exemple d'une certaine forme de dégénérescence du multilatéralisme. Parce qu'en réalité, dans ce pacte, il n'y a pas d'engagement.
Oui.
Il a l'air d'un véritable traité, mais ce n'est pas un traité. Et on donne une satisfaction mesurée au pays de départ, en quelque sorte, au pays du Sud, en leur disant « mais nous ne sommes pas une forteresse, nous sommes prêts à accueillir ». Et en même temps, on donne satisfaction à l'opinion occidentale en disant « mais ça n'est pas juridiquement obligatoire ». Donc il y a un effort pour ménager la chèvre et le chou et pour ne régler aucune question. Ça relève, à mon avis, d'un pacte cosmétique.
Hervé Le Bras.
La demande d'examen au Parlement est intéressante, mais enfin, on a tous les éléments en France depuis longtemps. Il y a justement, vous l'avez rappelé, que ce débat avait déjà été demandé et voté, qu'il n'a pas eu lieu. Il y a un excellent rapport au Parlement qui est fait chaque année avec des données très complètes. L'OFPRA, l'organisme qui s'occupe des
réfugiés et apatrides,
a un excellent rapport aussi. Tout ça est disponible assez facilement. Moi, je crois que la question elle est plutôt du côté des politiques. Et si on prend ce qui s'est produit récemment, j'ai quand même été assez étonné de voir que dès décembre, le président Macron a mis les migrations sur le tapis alors que c'était absolument pas demandé par les gilets jaunes. Et puis ça a été un tout petit peu repoussé parce qu'on a dit mais c'est pas la question. Donc les quatre thèmes n'ont pas pris migration. Elle a été un quatrième thème bis. Et puis même chose, dans le grand débat, vous l'avez rappelé, il n'y a pas eu question de pratiquement pas de questions sur les migrations. Et ça y est, ça revient avec le discours de Philippe. Ça revient avec quelque chose que je suis obligé de considérer comme presque stupide, qui est cette question des quotas. J'ai appartenu à une commission qui s'appelle la commission Mazot, qui avait été nommée par Sarkozy dans le but d'établir des quotas. Mazot était un homme de droite, un très grand juriste, Pierre Mazot, il avait présidé le Conseil constitutionnel, il a fait le travail sérieusement, on était 10, on prenait une journée par semaine, on a eu des auditions, il a fait un rapport qui a d'ailleurs rendu un peu furieux Sarkozy, disant « c'est impossible les quotas ». Quand même, la moindre des choses pour Monsieur Castaner ou pour le cabinet de l'Élysée, c'est de consulter ce rapport qui est publié à la documentation française et où on donne tous les éléments qui montrent que cette idée de quota, c'est un mot en l'air. Ça peut marcher dans certains cas extrêmes sur le Canada et même le Canada est revenu en arrière. Il s'est bien aperçu qu'on ne peut pas gérer de cette manière-là un phénomène. Je pourrais développer beaucoup plus, mais c'est dans le rapport Mazot. Donc, il y a une responsabilité des politiques de sans arrêt pousser les feux sur cette question. Alors, soit c'est directement le fait de l'extrême droite, soit c'est soi-disant pour répondre à l'extrême droite, pour pas se laisser prendre au piège, pour pas dire comme une fois Laurent Fabius avait dit c'est une bonne question mais il y a des mauvaises réponses. Bon, on est entraîné là-dedans et je pense que la responsabilité du politique est très forte et elle est une nouvelle fois illustrée par ce qui se passe et qui m'a profondément surpris, connaissant même les origines politiques de Macron, je dirais.
Alors, juste, je vous passe la parole tout de suite, Christophe Bertossi, mais juste pour nos auditeurs, donc le ministre de l'Intérieur français, Christophe Castaner, qui s'est dit récemment ouvert à des discussions sur cet épineux sujet des quotas migratoires. Christophe Bertossi.
Je suis pas sûr que utiliser aujourd'hui dans le débat public la notion de quotas soit entièrement à mettre à l'actif d'une stupidité de l'analyse publique. Au contraire, je pense que c'est très stratégique comme utilisation, dès lors que c'est un mot dont on a déjà fait le sort grâce à la commission Mazot, vous le rappeliez, on sait que ça ne marche pas, et de toute façon, entre les quotas et la réalisation du rêve porté par les quotas, il y a loin. Mais quand même, la notion de quota, elle permet une gymnastique de catégorisation de ce qui sont les migrants aujourd'hui, qui est permanente de Sarkozy jusqu'aujourd'hui au mandat du président Macron. Ça permet de construire une opposition entre les migrants utiles et les migrants fardeaux. L'idée du quota, tel que c'est agité dans le débat aujourd'hui, ça permet de tenir la digue entre des réfugiés qui auraient droit à la protection et à l'accueil qui leur est dû, et de l'autre côté, tout le reste, qui les migrants, donc des faux réfugiés, qui n'auraient pas à être reçus dans le cadre des politiques françaises. La question des quotas était du même registre lorsque Sarkozy faisait l'opposition entre migration subie et migration choisie.
Serge Sûr.
Oui, je crois qu'on pourrait aussi se placer du point de vue des États de départ. Parce que les quotas, c'est très bien du point de vue du pays d'accueil. Mais le risque, c'est que on vide les pays de départ de leurs élites. Et malheureusement, c'est ce qui se produit en partie à l'égard de l'Afrique. Mmh. Il y a une période où on disait qu'il y avait davantage de médecins béninois en France qu'au Bénin. Je ne sais pas si c'est exact.
C'est faux.
Mais en tout cas, c'était une assertion. On le disait volontiers. Et le problème, c'est que si on vide ces pays, s'il y a un phénomène de brain drain et que ces pays se trouvent vidés de leurs élites, on peut en bénéficier, mais les pays en souffrent encore davantage. Alors ça peut nous conduire à d'autres réflexions sur le fait que 50 ans après la décolonisation, eh bien, on a des États qui sont plus ou moins défaillants et qui n'arrivent pas à nourrir, à garder leur population, qui, même lorsque les asilants sont déboutés du droit d'asile, refusent de les reprendre, ce qui tout de même pose un grand problème, parce que normalement, l'un des progrès récents du droit international, c'est la responsabilité de protéger. Mmh. Et la responsabilité de protéger, ça veut dire qu'on doit accueillir sa propre population. Et puis, ce qui pose aussi un autre problème, qui est maintenant sous le boisseau depuis des décennies, qui est celui du contrôle des naissances. Il y a une époque où on disait, on fait des conférences sur la population pour arriver à contrôler les naissances, ça veut dire à limiter le nombre de naissances dans des pays qui n'ont pas les moyens d'accueillir, de nourrir une très vaste population. On a totalement abandonné cet objectif et le résultat, c'est qu'il y a une croissance démographique dans certaines parties du monde, qu'il y a au contraire des régions du monde qui tendent à se dépeupler, notamment l'Europe, et qu'évidemment, on crée une appréhension, ne serait-ce qu'une appréhension de grand remplacement, qui est tout de même un des mythes qui sont aujourd'hui répandus.
Alors, Hervé Lebras, et peut-être on donnera quelques chiffres avant de terminer cette première partie d'émission pour poser un petit peu la problématique. Hervé Lebras.
Oui, il faut être précis sur cette question de quotas. Si on prend la migration régulière, les 200, à peu près 260 000 permis de séjour qui ont été donnés l'année dernière, où peut-on mettre les quotas ? Est-ce qu'on peut les mettre pour le regroupement familial ? Impossible. D'autant plus que le regroupement familial, maintenant, le mot est assez mal choisi. Plus de la moitié, c'est des familles de Français. Et parmi eux, c'est des couples mixtes. Est-ce qu'on peut le mettre sur les étudiants ? Pas du tout. On a une demande actuellement. Au contraire, on souhaite élargir la position de la France dans le monde à ce sujet-là. Donc, c'est les deux gros morceaux, on ne pourra pas. Quels sont les deux morceaux qui restent ? Il reste la migration économique. C'est 12,5%. L'année dernière, c'est peu. Au contraire, on l'encourage, parce qu'on a besoin de médecins, il y a des cartes talents, et je ne sais plus le terme exact, mais qui cherchent justement à faire venir des scientifiques de haut niveau, des informaticiens, donc on peut pas non plus. Reste l'asile. Mais l'asile, le ministre de l'Intérieur a dit, on n'y touchera pas. Donc la seule porte qui restait pour le quota est fermée. Il a d'ailleurs tort, et là, je vous rejoindrai un peu, parce que dans cette question d'asile, c'est pas tellement la demande d'asile qui pose un gros problème. C'est le fait que les refusés d'asile demeurent après le refus de l'asile. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui montre que près de 90% d'entre eux restent en France ou en Europe. Et là, c'est un gros problème et ça fait très mauvais effet dans l'opinion. On ne comprend plus pourquoi il y a un OFPRA si, une fois les dossiers examinés, les personnes restent. Et là, il pourrait y avoir des accords européens à ce sujet. Il faut savoir que, notamment, l'augmentation des demandes d'asile actuellement en France, puisque ça passait d'à peu près 95 000 à 120 000, c'est des refusés du droit d'asile en Suède et en Allemagne. Donc on se retrouve avec des choses aberrantes, c'est Pascal Brice le raconte, l'ancien directeur, avec des réfugiés afghans qui parlent allemand, parce qu'ils ont été demandeurs d'asile en Allemagne, donc on leur a appris l'allemand pendant le temps qu'on examinait leur demande.
Pascal Brice, donc l'ancien directeur de l'OFPRA, qui estime précisément que l'Europe reste très défaillante sur les questions de migration et d'asile. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Serge Sûr, Christophe Bertossi et Hervé Lebras. Après le journal, à tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur la question migratoire en Europe. Nous retrouvons nos invités Serge Sure, professeur émérite à Paris 2, directeur de l'annuaire français de relations internationales et rédacteur en chef de la revue Questions internationales, dont le dernier numéro est intitulé « L'Europe face au choc des migrations ». Christophe Bertossi, directeur du Centre Migration et Citoyenneté de l'Institut français des relations internationales, et Hervé Lebras, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Quelques chiffres peut-être pour redémarrer cette deuxième partie d'émission sur les questions migratoires. 258 millions de migrants internationaux aujourd'hui. Je parle sous votre contrôle, particulièrement Hervé Lebras et Christophe Bertossi. C'est 3,4% de la population mondiale, mais le nombre de migrants résidant dans les pays à haut revenu est passé de 9,6% en 2000 à 14% en 2017. Qu'est-ce que l'on constate, Hervé Lebras, en matière de migration à l'échelle européenne ?
Alors d'abord sur les 258 millions, d'ailleurs il me semble maintenant que c'est un peu plus, mais il faut bien voir, c'est pas des migrants qui arrivent dans l'année. La définition de l'ONU, c'est des personnes qui vivent dans un pays différent de celui de leur pays de naissance. Certaines sont là depuis 80 ans, si vous voulez. Donc c'est le stock des migrants. Quand on cherche, c'est très difficile, on peut chercher à calculer quel est le flux, le mouvement annuel. Et on tombe sur des chiffres qui tournent autour, c'est beaucoup, mais c'est pas énorme, qui tournent autour de 10 millions de personnes, dans les deux sens, hein, un certain nombre de personnes rentrent. Donc c'est quand même un phénomène qui n'est pas énorme à l'échelle internationale. Simplement, effectivement, il y a des cas extrêmement différents. Si on prend un pays comme la Chine, il n'y a pratiquement pas de migrants en Chine ou en Inde. En revanche, si on prend un pays comme le Liban, actuellement, un sixième de la population libanaise est constituée de réfugiés syriens. Donc, il y a des situations extraordinairement différentes. La question démographique est beaucoup plus souvent une question où il faut entrer dans le détail. On y reviendra peut-être à propos de la population africaine. Les différentes parties de l'Afrique n'ont pas du tout ni la même migration, ni les mêmes problèmes à terme. Donc quand on met tout ça ensemble en disant il va y en avoir un milliard de plus, on mélange, comme on dit souvent, des carottes et des poireaux.
Christophe Bertossi.
Je crois que le chiffre que vous évoquiez tout à l'heure montre que même s'il est sous-estimé, mais tant qu'il y ait 5% de migrants internationaux aujourd'hui dans le monde, ça veut quand même dire qu'il y a 95% de la population mondiale qui ne migre pas. Donc on reste dans un monde quand même qui n'est pas un monde en mobilité. Il y a, en plus de cela, on peut le constater, une relative stabilité de la population des migrants dans le monde relativement à volume de la population mondiale. Donc on n'est pas non plus dans un accès de fièvre de la mobilité internationale. En revanche, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des réorientations de routes. C'est-à-dire qu'en Europe, en 2015, l'Europe est devenue l'une des destinations majeures des populations qui fuyaient particulièrement le conflit en Syrie. Mais derrière cette image, d'abord, relativisons ce que veut dire 1,2 million de réfugiés entrant en 2015 en Europe pour un espace politique qui regroupe près de 512 millions de citoyens. Je veux dire, si on prend le cas du Liban que vous rappeliez tout à l'heure, c'est très différent. Et même le cas de la Turquie, oui, qui est le principal pays d'accueil des réfugiés aujourd'hui dans le monde, qui a accueilli, selon les chiffres officiels, 2,5 millions de réfugiés. C'est le double des réfugiés accueillis en Europe pour un peu plus de 15% de la population européenne. Donc il faut qu'on arrive aussi à relativiser et aussi se rappeler dans cette discussion, enfin, qu'une grande partie des migrations dans le monde ne viennent pas du sud vers le nord, mais c'est des migrations sud-sud. On parlait de l'Afrique tout à l'heure. Dans l'espace subsaharien, 70% des migrants dans cet espace-là restent dans un pays voisin du leur. Donc c'est une Afrique qui reste finalement encore peu connectée aux routes internationales. Il y a beaucoup plus de migrants africains en Afrique qu'il y en a en Europe, puisque c'est à peu près de l'ordre de 27% des Africains qui finissent en Europe.
Serge Sure.
Oui, c'est un peu ce que je souhaitais dire, c'est-à-dire que on a implicitement tendance à raisonner comme si c'était une immigration sud-nord, mais il y a aussi beaucoup d'immigration sud-sud, et il y a aussi une immigration nord-nord. Considérons par exemple que l'Europe de l'Est est en partie en train de se vider, que les Balkans sont en train de se vider, et ils ne vont pas en Afrique, ils vont en Europe ou aux États-Unis. Et même en France, rappelons-nous qu'il y a à peu près 2 millions, si j'ai bien compris, de personnes expatriées, dont une bonne partie vont dans les pays développés. Alors ça souligne la complexité du phénomène migratoire qu'on ne saurait assimiler purement et simplement, premièrement, à une immigration venant de pays d'islam, et deuxièmement, une immigration sud-nord.
Alors finalement, là aussi, une sorte de photographie me paraît importante, Hervé Le Bras. Qu'est-ce que l'on peut dire des migrants aujourd'hui? Qui sont-ils? Alors, où vont-ils? On l'a dit, il y a même des chiffres qui précisent que les deux tiers des migrants internationaux vivent dans 20 pays seulement et la moitié dans 10 pays du monde, la plupart aux États-Unis. Ce sera l'occasion de parler de ce qui se passe avec le Mexique, l'Arabie Saoudite, en Allemagne, en Russie et puis au Royaume-Uni.
Oui, une partie de ces migrants, le professeur Sûr vient de le rappeler, sont des migrants qui partent des pays développés, des pays occidentaux. Mais disons que on est dans un phénomène, le terme plus exact serait un phénomène de circulation plus que de migration. D'ailleurs, on emploie le mot expatrié dans l'idée, sans doute pas vérifié d'ailleurs, que ces gens-là reviendront. Un expatrié français, quand il arrive au Canada, c'est un immigré. On oublie qu'il est un expatrié. Il faut savoir que, pour vous donner une idée des chiffres, pour la France, mais dans d'autres pays européens, les chiffres sont de cet ordre-là, au cours des dernières années, chaque année, un peu plus de 200 000 Français, c'est dit non-immigrés français, quittent le territoire français et seulement 100 000 rentrent. Autrement dit, le bilan, la migration nette en France est assez faible. L'année dernière, elle est d'à peu près 70 000 personnes, parce qu'il y a un apport de 170 000 étrangers en migration nette, et puis il y a un départ de 200 000 Français. Alors vous avez raison de dire, ces Français sont établis à l'étranger, de la même manière qu'il y a des étrangers en France. Il y a à peu près 4 200 000 étrangers en France, et on pense qu'il y a 3 millions de Français à l'étranger. Donc on ne peut pas traiter ce phénomène-là comme de la migration de réfugiés à laquelle on a assisté récemment.
Alors justement, 2 milliards de terriens de plus en 2050, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier, Christophe Bertossi? En termes de migration, elles sont, les migrations aujourd'hui, une composante majeure des évolutions de population.
Il y a un lien évident. Ceci dit, la démographie, ça ne fonctionne pas selon les lois de la mécanique des fluides. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que la population augmente pour que des ressortissants d'un pays dont la démographie exploserait, par exemple, finissent sur les routes des migrations internationales. D'abord, parce qu'il y a des systèmes régionaux de mobilité, on l'a dit, parlons de l'Afrique, c'est une mobilité africaine. Et ensuite, parce que la démographie seule n'explique pas les raisons du départ. Ce n'est pas les plus pauvres, d'ailleurs, qui ont les moyens de prendre la route. Il faudrait que, à cette évolution démographique, soit associée une évolution économique pour que un pays devienne un grand pays de départ. Et à cela, il faut ajouter le fait que la mondialisation des migrations internationales au cours des 30 dernières années a fait que c'est plus nécessairement une carte du monde qui est organisé entre pays de départ et pays de destination, mais un même pays peut être à la fois un pays de départ, un pays de transit et un pays de destination. Alors, vous avez les grands exemples que sont le Maroc, souvent cité, qui est dans ce cas, le Mexique, qui est aussi dans ce cas, je dirais la France aussi. Et du coup, c'est aussi une question de la place de la population du Nord dans l'analyse des perspectives de démographie pour l'avenir. Le gouvernement espagnol commence à se poser le souci parce qu'il n'y a plus assez de bébés produits chaque année en Espagne. On a des populations européennes qui diminuent. La population allemande, la population italienne diminuerait s'il n'y avait pas d'apport migratoire. Alors je dis pas que la migration est une solution à la crise démographique, à la fois par la diminution des populations européennes et leur vieillissement, mais en même temps ça montre la complexité de la relation entre migration et démographie.
Hervé Le Bras.
Oui, si on prend par exemple le cas de l'Afrique, puisqu'on a fait plusieurs fois allusion à ce milliard supplémentaire d'après les projections des Nations Unies, il faut la couper en quatre au moins, l'Afrique. C'est-à-dire, il y a l'Afrique du Nord. Mmh. En Afrique du Nord, la fécondité est à un niveau maintenant relativement faible, un peu plus fort en Égypte, mais dans le Maghreb, on est autour de 2,2 enfants par femme, et il y aura une croissance assez faible d'ici à 2050. Et puis, il y a le Sahel. Alors là, j'attire votre attention, c'est la zone inquiétante, si l'on peut dire. Du Sénégal au Tchad, il y a actuellement un peu plus de 80 millions d'habitants. Dans la prévision pour 2050 des Nations Unies, enfin projection, ils seront 230 millions. Il y a actuellement un peu plus de 20 millions d'habitants au Niger. Ils seront, dans la projection moyenne, 67 millions en 2050. Ça me paraît là impossible. Donc il y aura la zone sahélienne qui est déjà une zone très troublée, qui a des capacités de production de subsistance assez faibles, reste une très grosse menace. Le plus haut taux de fécondité dans le monde, c'est au Niger. Actuellement, c'est 7,3 naissances par femme. Puis vous avez rapidement l'Afrique équatoriale. Là aussi, la fécondité est élevée, la croissance est forte, mais il y a de la, comment dire, il y a du territoire. Le Gabon, on doit être à 3 ou 4 habitants par kilomètre carré. La République démocratique du Congo est à une soixantaine d'habitants au kilomètre carré. Ils ont des ressources énormes, donc la pression démographique sera beaucoup plus faible. Et puis l'Afrique du Sud, qui est le quatrième morceau, où là, la fécondité est même au-dessous de 2,7 enfants par femme. Donc là, bon, ben, ça sera comme le reste du monde. Donc vous voyez que quand on parle d'Afrique, je crois qu'il faut vraiment, je pense à chaque fois, entrer dans le détail, parce que dire 1 milliard, ça fait peur à tout le monde. Mais quand je vous dis 80 millions ou 90 millions de Sahéliens, il n'y a plus de raison quand même que ça fasse peur à tout le monde. C'est 1% de la population mondiale.
Alors, un rapport tout à fait récent de Perspective note des tendances de long terme, et je pense que c'est important de le souligner. Pour la plupart des régions, les départs et les arrivées de migrants des années 2010 à 2020, donc on est un peu dans la prospective, devrait être inférieur à ceux de la décennie précédente, à l'exception de l'Afrique subsaharienne, où ces mêmes experts rapportent qu'il y a eu une augmentation substantielle des migrations internationales avec 4,1 millions de départs. C'est 76% de plus que dans la période 2000-2010. Qui souhaite commenter ? Hervé Le Bras.
Oui, alors à nouveau, il faut voir quelle partie de l'Afrique, si vous voulez, puisque quand on dit que les Africains viennent en Europe, pour l'instant, c'est encore très largement les Maghrébins qui viennent dans les pays en France et puis dans les pays voisins. La partie Afrique subsaharienne est encore relativement faible. Elle est en croissance assez rapide, donc le rapport de ce point de vue-là a tout à fait raison. Il faut souligner une chose sur laquelle je suis un petit peu perplexe, c'est que depuis toujours, quand je dis depuis toujours, c'est depuis que 1963, date à laquelle la division de la population des Nations Unies fait ses projections de population, les migrations sont plutôt sous-estimées. Les prévisions sont faites jusqu'à 2100, quand on regarde. Les Nations Unies prévoit que le solde migratoire en moyenne va diminuer, va même tendre vers des valeurs très faibles en 2100. Donc il y a un aspect dans ces projections qui est un peu politique, parce que les migrations, quand les soldes sont importants, sont quand même, on vient d'en parler, déstabilisatrices. Je pense que les Nations Unies peuvent pas prévoir un monde en 2100 déstabilisé, sinon leur rôle n'aurait pas été très important dans la pacification de la planète. Donc il faut se méfier que derrière les projections, il y a souvent des contenus qui peuvent être idéologiques dans le sens très général du terme.
Christophe Bertossi.
Pour compléter, il y a quand même aussi une relation entre les accélérations de mobilité internationale et la politisation de la question de la mobilité internationale, qui est plutôt à contre-temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, la crise aux États-Unis et sur la frontière mexicaine, on n'est pas dans un moment d'accélération des passages ou d'explosion de la présence de ces fameux Mexicains en situation irrégulière qui séjournent aux États-Unis depuis très longtemps. On est même à un moment de baisse, c'est-à-dire qu'on est passé de 12 millions, qui était une estimation de la population en situation irrégulière, principalement de population mexicaine, à maintenant autour de 10,7 millions. On a perdu 2 millions. Et pourtant, on n'a jamais fait autant qu'aujourd'hui de la frontière une situation politique d'urgence. Et d'ailleurs, le président Trump a déclaré l'urgence à la frontière. Je dirais la même chose sur l'Italie. C'est-à-dire qu'au moment où la Ligue et les 5 étoiles remportent les élections en Italie l'année dernière sur le dossier migratoire, au même moment, et pour des raisons peut-être dont il faudrait qu'on parle aussi, on n'est pas à un niveau historique record dans les entrées vers l'Italie. Au contraire, on est déjà dans une dynamique de baisse. Donc le fait d'en parler beaucoup ne signifie pas, et en général ne signifie jamais, que vous avez une situation de réalité d'une crise migratoire aux frontières.
Alors vous l'évoquez, c'est que l'Italie était en campagne à ce moment-là, et si on se tourne du côté américain, Donald Trump est en campagne, puisqu'il a annoncé sa candidature pour un deuxième mandat, et je voulais avoir votre commentaire sur ce qu'il demande aux Mexicains, c'est de sécuriser la frontière entre le Guatemala et le Mexique, c'est donc mettre au sud tout ce qui se passe au nord, à la frontière mexico-américaine. Un commentaire, Serge Sûr.
Écoutez, je crois qu'on ne peut pas reprocher aux États-Unis de protéger leurs frontières. Tout État a le droit de savoir qui entre sur son territoire. Il a le droit aussi de limiter l'accès à la population extérieure, sauf ses engagements internationaux. Et par exemple, en ce qui concerne le droit d'asile. Mais il peut aussi demander à un pays qui est l'origine des migrations d'assurer le respect de sa frontière. Et s'il s'agit d'une frontière qui n'est pas la sienne directement, mais celle avec un autre État, et par rapport auquel il sert de transit, il peut parfaitement le faire. Donc il n'y a aucune irrégularité internationale de ce point de vue. Et d'ailleurs, je crois que le Mexique a entrepris de prendre des mesures, peut-être pas entièrement satisfaisantes du point de vue américain, mais enfin, il a tout de même accepté le message, d'autant plus qu'il était adorné de quelques sanctions.
Un commentaire, oui, Christophe Bertossi.
En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'externaliser le contrôle de nos frontières, les frontières américaines au sud ou les frontières européennes en Méditerranée, en les faisant correspondre à la mobilisation des forces de sécurité des pays du sud. C'est une dynamique qu'on a très bien connue dans le contexte européen, où alors les Européens, dans la dimension interne des politiques migratoires, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. En revanche, il y a un accord, en tout cas une convergence, sur l'idée que la dimension externe des politiques migratoires européennes est nécessaire, c'est-à-dire qu'on va demander aux pays du Sud d'être le barrage de l'accès à notre territoire. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'on descend de plus en plus vers le Sud, dans cette logique, jusqu'à venir interférer avec ces fameuses mobilités intra-africaines. On a demandé, par exemple, au Niger, qui se trouve en plein sur la route qui mène les migrants vers la Libye, d'être un peu le gendarme, le policier des frontières pour l'Europe, au gré d'accords. Et le Niger a accepté de le faire, à réformer sa législation et à criminaliser le passage organisé au nord, c'est-à-dire dans la frontière commune avec la Libye. On s'est rendu compte de quoi ? On s'est rendu compte qu'en fait, cette criminalisation du passage, puisque ce qui était visé, c'était des passeurs, a d'abord concerné des populations locales qui avaient pris appui sur cette mobilité pour monter une économie du passage. Alors c'était des petits transporteurs routiers, c'était des hôtels, des restaurants qui faisaient ces services-là. On les a empêchés de continuer, ça a eu quand même un impact économique régional, et surtout on a mis les migrants qui passaient par ces moyens-là dans les mains des passeurs organisés et des bandes criminelles organisées qu'il s'agit d'affecter par ces mesures. Et enfin, dernier point, qui était pris dans les filets de ces contrôles? Souvent des gens qui n'avaient pas du tout pour but d'aller en Europe. Donc on a un pays qui empêche ses propres ressortissants de sortir, ce qui est quand même là, pour le coup, une atteinte au droit international.
Oui, alors, oui, qui est d'ailleurs dans la Convention internationale des droits de l'homme, il y a un article, je ne sais plus si c'est le 8 ou le 13, qui dit « Toute personne a le droit de quitter le pays où elle réside, qu'il soit le sien » ou non. Donc là, on est en contradiction. Vous avez tout à fait raison de signaler ces accords de plus en plus nombreux qu'on déguise d'ailleurs sous le terme de accords de voisinage.
Mais oui, vous voulez dire quelque chose. C'est un droit qui ne comporte pas l'obligation pour les autres États
d'accueillir
les personnes en question.
Bien sûr.
Alors,
mais
je voulais juste rappeler comme exemple de protection des frontières les accords du Touquet.
Oui,
où finalement les
exactement.
Français protègent, sont obligés de protéger leurs propres frontières à l'égard des Britanniques qui ne veulent pas accepter cette immigration.
Quelle est la contrepartie? Parce que c'est quand même assez étrange.
La contrepartie,
étrange.
C'est que les Anglais paient en partie. Ils paient dans une certaine mesure.
J'ai des doutes que ça soit suffisant. Oui, je me suis demandé, est-ce que la construction de PR en Angleterre... Enfin, je pense qu'il y a des choses plus larges. Je ne suis pas un complotiste.
Enfin, la question de la frontière entre l'Europe et le Royaume-Uni.
Ça m'a toujours paru très bizarre.
De toute façon, ce qui se passerait, si le passage était autorisé, il reviendrait. Il n'aurait pas d'autre solution que de revenir sur les côtes du continent.
Oui, mais dans ce cas-là, on pourrait dire qu'on pourrait faire la même chose avec ceux qui arrivent en France.
On créerait des boules picoles.
Bon, en tout cas, on n'a pas parlé, mais je l'évoque juste pour le signaler. En décembre prochain, à Genève, le Forum mondial sur les réfugiés, dans un contexte du premier anniversaire de la signature du pacte mondial pour les réfugiés. Ce sera peut-être l'occasion de vous avoir à nouveau dans cette émission. Merci Serge Sur. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à Paris 2, directeur de l'annuaire français des relations internationales et rédacteur en chef de la revue Questions internationales, dont le dernier numéro est intitulé « L'Europe face au choc des migrations ». Hervé Lebras, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et Christophe Bertossi, directeur du Centre Migration et Citoyenneté de l'Institut français des relations internationales. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Nathalie Laporte et Louise Calédec. À demain.